les Atamans. Dans leur campagneuse épique, ils traquaient Trotsky.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Bernard Anthony au micro pour notre émission de la réplique dans le cadre des libres journaux de la résistance française. Merci à Stéphane à la technique qui va prendre vos messages. Donc, je suis ce soir avec Jeanne Smith.
Bonsoir, chers auditeurs.
Bonsoir, Jeanne. Je suis avec Prudence Tang, qu'on accueille à ce micro avec un grand plaisir. Prudence est une amie de longue date, une militante exemplaire à bien des égards. Je suis... Non, monsieur Bali, ne faites pas là comme ça. Ah, il est terrible. Je suis avec même Yann Bali, n'est-ce pas, Prudence? On accueille Yann Bali sans difficulté. Hein? Alors, oui, vous faites... De l'amour, vous aussi.
Bonsoir Bernard, bonsoir chers auditeurs, bonsoir Prudence.
Voilà, on a envie de rigoler quelquefois un tout petit peu. Et je suis aussi avec Richard Haddad. Bonsoir Richard.
Bonsoir Bernard, bonsoir à tous les auditeurs.
Voilà, alors nous allons balayer l'actualité rapidement. Ça mériterait mieux, mais il y a aussi donc, le fait que je suis le coupable de la rédaction d'un livre qui s'appelle « Mémoire ». Et que, ayant tellement commenté des livres d'amis, je pense qu'il est aussi un peu normal qu'on commente le livre dont je suis le coupable, n'est-ce pas, Jeanne ?
Eh bien, vous êtes un grand coupable parce que c'est un livre qui fait son poids et qui raconte vraiment énormément de choses. Donc
voilà. Alors, avant cela, on va dire un petit mot de l'actualité qui a été marquée par la défaite d'Orban en Hongrie, ce dont personnellement je ne suis point chagriné. Double échec donc pour Poutine et pour Vance, qui donc avait été le fidèle serviteur de Trump en l'occurrence, avec ce phénomène de poutinophilie que nous avons commenté quelquefois. Qui veut prendre la parole sur cela ?
On peut ajouter les Chinois.
Ah mais oui, j'oublie les Chinois, et pourtant ils sont...
Avec qui il avait fait des accords, et desquels il disait beaucoup de bien,
mais oui.
Orban. Hein,
mais oui.
Au contraire de Trump, au demeurant.
Absolument, oui. C'est bon, il n'est pas une contradiction près, Orban. Et puis vous vous souvenez de cette affaire de 56, hein, où il avait remis en cause, je ne me souviens plus des détails, Bernard, vous le savez mieux que moi, vous vous souvenez peut-être. C'était pas lui personnellement, mais un de ses adjoints, il me semble, qui avait remis en cause
l'admirable soulèvement de 1956.
Alors, pour quelqu'un de droite, je pense que les Hongrois n'ont pas oublié cette espèce de reculade sur un événement qui les a quand même marqués.
Je me souviens que ça fait partie des événements qui ont marqué ma jeunesse, parce que j'étais déjà très politiquement... Comment dirais-je, actif un tout petit peu, quoi. Voilà. Et là, ça avait été quelque chose d'absolument horrible, un de ces premiers écrasements de révolte des peuples dans l'Europe de l'Est. Et donc, voilà, je pense que ça explique beaucoup de choses. Là. On pourrait passer une émission sur cela, mais ce n'est pas le but ce soir. Donc là, c'est une bonne nouvelle, je pense.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, il faut reconnaître à Orban qu'il a réussi à maintenir à distance, dans une certaine mesure, l'immigration. Et quand on se balade à Budapest, qui nous est arrivé, eh bien, on est vraiment presque choqué par le climat de sécurité et par l'absence d'immigration irrégulière.
Des mœurs, des valeurs.
Oui. Économiquement, en fait, ça n'allait pas bien du tout, oui. Ça a joué. Et
ça,
puis...
l'Europe y est pour quelque chose, économiquement, parce qu'ils ont un peu...
Ils ont un peu fermé...
Il y a quand même un contraste entre sa politique étrangère et sa politique intérieure.
Exactement.
Parce que sur le plan intérieur, on ne peut pas lui reprocher beaucoup de choses. Sur le plan de la politique étrangère, c'est des alliances un peu contre nature.
Voilà, exactement.
Cela dit, ce qui est intéressant, c'est de voir que le successeur d'Orban, Peter Mayer, nous avait vanté comme un chaud partisan de l'Europe,
oui, en fait, de l'Europe, pas tant que ça, hein.
Un ami d'Ursula von der Leyen. En fait, ses premiers discours nous montrent que, bah, sur, je pense que Jeanne, c'est de ça dont vous voulez parler, sur l'immigration, il parle de reconstruire, de terminer le travail aux frontières pour empêcher l'immigration.
Et pour aller en fait beaucoup plus loin, beaucoup que n'a été Orban.
Et on n'a pas vu un seul drapeau européen apparaître derrière lui lors de ses premières prises de parole, et je crois que déjà les européistes à la Ursula von der Leyen commencent à déchanter.
Oui, tout à
donc
fait.
En quelque sorte, on peut dire qu'il a gardé le meilleur d'Orban et il en a jeté le pire. C'est donc plutôt une bonne nouvelle.
Moi, je regardais, vous le savez, je crois beaucoup à la psychomorphologie, et j'ai vu évoluer la gueule d'Orban. Et il a pris une gueule d'apparatchik bolchevique de plus en plus. Ça, c'était très significatif pour moi.
Alors que c'était un militant anticommuniste au départ.
Mais oui. Et alors, chose intéressante, comme souvent dans les milieux de droite, il y a certaines accointances avec un Alexandre Douguin, par exemple. Douguin n'a pas pu entrer en Hongrie pour un congrès on dira d'ultra-droite, hein, cette fois-ci, c'était des Américains, pas forcément très recommandables, mais en tout cas, Douguin, lui, avait été bloqué à la frontière, ce que j'avais trouvé intéressant.
Encore il y a fois, vraiment
beaucoup de contradictions, beaucoup de contrastes, et maintenant, un nouveau qui va peut-être donner quelques gages, semble-t-il, aux LGBT, encore que son programme n'en ait rien dit, et qui veut que continuer d'essayer de remettre sur pied la natalité hongroise, ce que Orban n'a pas réussi à faire, malgré des mesures très fortes.
Des tentatives, en effet. Jan Baliv souhaitait, ce qui ne nous étonnera pas, et nous nous en réjouissons, parler du Liban un tout petit peu, rapidement, cher Yann.
Oui, très rapidement. Bon, alors la situation, elle est abondamment commentée dans un certain nombre de médias, et sur Radio Courtoisie également. Il y a sans doute des choses à reprendre, mais on n'a pas le temps ici.
Beaucoup de choses.
Simplement, oui, effectivement, en instant sur certaines chaînes de télévision, d'informations continues, des choses qui sont absolument scandaleuses. Ce qui se passe au Liban, donc, évidemment, est terrible. Le Liban est en guerre depuis des décennies. Le Liban est la proie de puissances étrangères. Il est pris dans des conflits qui ne sont pas les siens. Ce n'est pas une guerre, comme on le dit partout, entre Israël et le Liban. C'est une guerre entre Israël et le Hezbollah. La très grande majorité des Libanais et la quasi-totalité des chrétiens attendent impatiemment que leur pays soit débarrassé de cet état dans l'état que constitue le Hezbollah. Et voilà, et il faut saluer, je crois, ici, on n'en parle pas suffisamment, la résistance des chrétiens du sud Liban qui refusent, malgré la guerre, malgré les dangers, de quitter leur village. Ils ont résisté au Hezbollah pendant des années en empêchant le Hezbollah d'investir leur village, en les empêchant d'installer leur base, leur stock de munitions, leur caserne, leur souterrain, etc. Aujourd'hui, ils restent malgré les bombes israéliennes qui quelquefois font des dégâts, y compris chez les chrétiens, malgré la pression du Hezbollah. Alors je voulais juste en parler parce que Chrétienté Solidarité a lancé il y a maintenant 3 semaines un appel pour soutenir les chrétiens du Sud-Liban, à la fois ceux qui restent dans leur village du Sud-Liban et les réfugiés qui ont été contraints de les quitter. Cet appel a très bien fonctionné. On continue parce que les besoins sont toujours là, le besoin en denrées, en produits alimentaires, en produits de première nécessité, en carburant, parce que le carburant c'est l'électricité et aussi les forages pour l'eau. Donc voilà, si vous voulez continuer à nous aider et participer à cet élan de générosité de chrétienté pour les chrétiens du sud Liban, eh bien vous allez sur le site de Chrétienté Solidarité, chrétientésolidarité.fr, rubrique dons. Vous avez un certain nombre d'articles sur cette initiative que nous menons conjointement avec l'ONG Nawraj de notre ami Fouad Abou Nader. Voilà, merci par avance de votre générosité.
Et je voudrais ajouter, comme toujours, Chrétienté Solidarité reçoit des dons qui sont intégralement reversés à leurs destinataires choisis.
Oui, c'est ce que j'ai voulu.
Zéro frais de fonctionnement.
Oui. C'est ce que j'ai voulu dès le départ, zéro frais de fonctionnement. Ce qui nous permet d'avoir quand même un peu de fierté par rapport à certaines associations que je ne citerai pas, mais qui pratiquent quand même une réalité tout à fait différente, c'est le moins qu'on puisse dire.
Un euro donné à Chrétienté et Solidarité, c'est un euro qui va aux bénéficiaires, que ce soit au Liban, en Égypte ou ailleurs. Voilà. Saluons aussi, parce qu'on n'est pas chauvin, l'excellent travail de l'œuvre d'Orient au Liban. Il faut le dire, parce que l'œuvre d'Orient fait vraiment un travail remarquable et n'a jamais été compromis dans des alliances
et très appréciée,
étranges,
c'est la plus ancienne des associations de solidarité. Elle a été présidée longtemps par Mgr Dolnisch, que nous avons eu à ce micro quelques fois. Mgr Dolnisch est venu au Centre Charlier à nos Galettes des Rois. Donc, il est vrai que nous permettons de dire l'œuvre d'Orient, vous pouvez donner les yeux fermés. Et nous, c'est 100% de ce qui était et qui va donc à nos œuvres. Voilà. Alors, quelques mots aussi sur l'actualité, qui est celle du voyage du pape en Afrique, pas seulement en Algérie. Donc là, il y a eu ces attaques de Trump contre le pape, en quoi il se dévalorise tout à fait, et surtout aux États-Unis. Je vois un article bien fait d'Adrien Jolme, qui est un bon spécialiste. Trump choque la droite religieuse en s'en prenant au pape. Et donc là, il y a eu la réaction de Giorgia Meloni, qui donc, a dit les mots qu'il fallait dire sur le sujet. Écoutez, chers amis, maintenant, donc, je suis à votre disposition, parce que ce n'est pas le premier livre de mémoire que j'ai écrit, puisque il est vrai aussi que nous avons fait, grâce à Cécile Montmirail, qui nous écoute, donc un livre de mémoire de la Drif. Hein, donc, on avait fait il y a un bon moment ce livre-là. Mais là, donc, j'ai voulu tenter donc, un souvenir. Alors, bien sûr, ça a été du choix, parce que on est obligé, quand on tente comme ça la gageure, d'écrire ses souvenirs, d'autant que j'ai remonté très tôt à l'école maternelle. Donc, comme je le disais récemment, des auditeurs me disaient « Mais vous avez été élevé à l'école libre chez les bons pères, n'est-ce pas, Bernard-Anthony ?» Eh bien non, j'ai été élevé à l'école laïque de mon village de Bazé, tout près de Tarbes, avec comme condisciples des enfants des républicains espagnols réfugiés dans nos régions, avec, donc, là, le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été élevé chez les bons pères. C'est ce qui m'a rendu anticommuniste dès le départ. J'avais des instituteurs, et alors, il est vrai que, donc, j'ai été insolent avec une de mes institutrices qui nous avait dit la grande victoire que signifiait la chute de Dien Bien Phu. Et j'ai eu des mots pas très courtois pour elle. Je me suis énervé parce que j'étais formé à l'époque. J'étais formé à l'époque par deux journaux, déjà. L'un, un illustré pour enfants, pas que pour enfants, qui s'appelait Cocardi, qui publiait notamment les aventures du colonel X et du sergent de Vérac. Et moi, j'étais déjà politiquement très motivé. Si bien que cette institutrice, eh bien, elle s'est attirée une riposte de ma part qui a entraîné donc une convocation de mon père avec l'institutrice. Je me suis réjoui que mon père m'ait pas trop désavoué. Hein, Richard.
Oui, Bernard, j'ai une question. Alors, ce que vous dites. D'abord, votre livre est très intéressant. Il part c'est en parallèle de l'histoire de France, parce que vous partez des années 50, vous avez commencé très jeune, et jusqu'à nos jours. Donc vous avez traversé, en étant partie prenante, un acteur, des événements, de ce qui s'est passé en France politiquement, et pas que politiquement. Mais je reviens sur cette affaire. Si vous étiez dans une école publique dans laquelle les professeurs étaient parfois communistes, voire souvent, c'est, si vous avez eu ces revues qui, sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour former un peu, forger un peu vos premières, c'est peut-être, est-ce que c'est, comment vous les avez connues, c'est, est-ce que ce sont vos parents?
C'est mon père.
Voilà.
Mon père avait eu, lui aussi, je l'ai quelques fois évoqué dans un autre livre, une carrière, il avait commencé très jeune, apprenti à l'arsenal de Tarbes, dont un des fondateurs avait été mon arrière-grand-père, réfugié d'Alsace, arrière-arrière-grand-père, réfugié d'Alsace en 70, et donc...
1870.
En 1870, oui, bien sûr, qu'est-ce que j'ai dit?
Non, je vous avais dit 70, mais je rappelle aux auditeurs que l'on s'est dit 1870.
Vous avez entièrement raison, Richard. Donc là, je me souviens donc d'avoir effectivement été, comment dirais-je, mon père souhaitait que j'ai des bonnes lectures. Et il avait choisi Cocardi. Et quand je me présenterai demain à la causerie que je vais faire au Centre Charlier de présentation de mon livre avec bien des amis...
Alors
je...
on va tout de suite préciser, oui. Comme ça on va le faire à plusieurs reprises dans l'émission. Demain à 19h30 au 70 boulevard Saint-Germain, au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e, métro Maubert Mutualité. Demain jeudi à 19h30, donc Bernard Anthony présentera son livre de mémoire édité tout frais, sorti des presses aux éditions de Godefroy de Bouillon. Donc demain à 19h30. Au Centre Charlier. La conférence sera suivie évidemment d'une rencontre et de dédicaces et d'un buffet d'amitié française.
Merci Yann. Et donc, oui, c'est mon père qui m'a fait lire Cocardi.
Comme quoi, si les enfants sont d'abord influencés plus que par leur maître à l'école, par leurs parents. C'est-à-dire que si les enfants d'un de nos auditeurs, par exemple, est dans une école où les professeurs ne sont pas. Recommandable, il peut lui influer sur la formation politique de ses ou son ou ses
encore
enfants.
Encore faut-il qu'il y ait des illustrés comme Cocardi, oui. Qui est là,
ça distrait la
rue. Parce que je retrouve des numéros de Cocardi où je découvre qui écrivait, parce qu'il y avait une page réservée à des écrivains adultes. Je trouve les noms de Pierre Klosterman, que nous avons bien connu, qui m'a soutenu, l'aviateur légendaire, son livre Le Grand Cirque. Pierre Klosterman, nous l'avons bien connu au Front National. Je vais dire un petit mot tout à l'heure du Front National, d'ailleurs, qui j'y ai fréquenté. Donc, là, Pierre Klosterman, Jean-Baptiste Biaggi, hein, qui était donc, qui écrivait pour Cocardi. Et là, je dois dire qu'en effet, je crois avoir été vacciné contre toute tentative d'admiration des Rouges.
Alors vous aviez un esprit patriote d'abord, c'est ça qui a motivé, j'imagine, et qui vous a été, encore une fois, inculqué par vos parents.
Essentiellement, oui, bien sûr.
Et c'est
oui.
Par patriotisme que vous étiez révolté contre...
Et aussi par mon curé de mon village de Bazette, qui était d'origine espagnole, qui n'était pas particulièrement gauchiste. Il s'appelait l'abbé Corotto, et je dois dire qu'entre l'influence de Cocardi et celle de l'abbé Corotto, j'étais assez prémuni contre un regard positif sur le communisme que je ne connaissais pas encore bien. J'avais, lors de la chute de Dien Bien Phu, 10 ans exactement. Donc à 10 ans, il y a des petits génies comme Pascal qui peuvent être déjà très formés pour les mathématiques et que sais-je encore. Moi, je n'étais pas formé pour les mathématiques, mais déjà pour la politique, j'avais les vaccins qu'il fallait pour éliminer donc la tentation communiste.
Oui, parce que ce qu'il faut souligner, c'est, outre les lectures, la formation, c'est qu'il y a chez vous une soif de connaissance, une curiosité, une recherche une recherche de se former. La très bonne quatrième de couverture du livre qui a été rédigée par Alain Sanders dit que ce sont les souvenirs d'un homme d'action, mais pas seulement, c'est aussi le travail de la formation que vous avez, que vous êtes allé chercher, que vous avez la recherche de la formation et la formation que vous avez donnée aussi. Vous êtes un homme d'action et de formation. Et je crois que c'est très important aujourd'hui parce que on tombe souvent dans un des deux écueils. Soit on n'est que dans l'action, soit on n'est que dans la formation. Et en fait, la formation doit sous-tendre et doit permettre l'action la meilleure possible.
Oui, oui, Richard.
Non, moi, je voudrais arriver. On va pas. Il faut pas raconter le livre. Il fait plus de 360 pages. Il faut que, d'ailleurs, avec un cahier photo riche de 22 pages. Donc, évidemment, il faut que les auditeurs le lisent pour découvrir un peu toutes ces aventures au fil des décennies. Mais il y a des points clés comme ça dans votre livre, des événements importants qui vous ont marqué. Et après cette affaire de Dien Bien Phu à l'école, vous aviez 10 ans, il y a eu la guerre d'Algérie. Vous étiez aussi très jeune.
J'ai été marqué par la guerre d'Algérie.
Oui, donc c'est un peu, à l'âge un peu plus mûr, parce que même si vous étiez encore très jeune, vous n'étiez même pas majeur, hein, si je me souviens, si je me trompe pas.
C'est ce qui m'a évité d'aller en prison, parce que quand les policiers sont venus à l'école de Jeanne d'Arc, parce que j'ai fait toute ma scolarité à l'école primaire, puis dans le secondaire au lycée de Tarbes, mais donc comme j'avais échoué à ma première partie du bac, parce que j'étais là cette fois, déjà j'étais politiquement très actif, et là donc j'ai appartenu à une organisation mal armée et pas assez secrète. Donc
une organisation pour l'Algérie française.
C'était l'OAS, rougis pas.
Vous aviez 16 ans à peu près.
J'avais 16 ans, oui. J'avais 17 ans et lorsque les policiers sont venus donc me cueillir en quelque sorte, j'ai eu la chance de pouvoir n'être pas embastillé parce que je n'avais pas les 18 ans légaux pour pouvoir, à l'époque, être embastillé.
Et pourtant, l'OAS jeune à laquelle vous avez appartenu...
L'OAS Métro Jeune, ça s'appelait comme ça.
Métro Jeune, qui était dirigé par Pierre Sergent, n'était pourtant pas très anti-gaulliste. Pourtant, les journaux que vous citez, Cocardi, vous lisiez également le courrier de la colère de Michel Debré.
Le courrier de la colère.
Alors, comment êtes-vous devenu anti-gaulliste ?
Pardon, juste, je complète la question de Diane, mais vous étiez admirateur du général de Gaulle avant la guerre d'Algérie, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris.
Absolument, ouais. J'ai été enthousiaste. Je me souviens, j'écoutais Radio Alger lors du 13 mai 58. J'ai été tout à fait modelé par le 13 mai 58. Mais au fond, j'avais quand même l'excuse de n'avoir pas 18 ans. Tandis que ceux qui deviendraient mes grands amis, Klosterman, Piaggi, Arrigi, eh bien, eux, ils étaient gaullistes. Et puis ensuite, ils se sont aperçus qu'ils étaient floués. Et ça a été une tragédie qui est encore en moi, quoi. C'est quelque chose que je n'ai pas pardonné. Et quand ensuite, j'ai vu les abominations donc, des journées d'Oran en juillet 1961. Donc là, mais j'étais donc vent debout aussi contre les collabos du FLN. Alors au lycée de Tarbes, il y avait des élèves donc d'origine algérienne qui étaient très clivés. Il y avait ceux qui étaient pour l'Algérie française, ils étaient héroïques, et puis il y avait ceux qui étaient pour le FLN. Et donc là, j'ai été au cœur du drame algérien et j'ai essayé de comprendre, de connaître ce drame, mais je n'ai jamais rien renié, et ça, on ne me fera jamais renier ma fidélité au combat pour l'Algérie française. Il est vrai aussi que cela me vaut des amitiés durables de mes amis pieds noirs. Je vais à Nice bientôt parler de mon livre, je suis sûr que, évidemment, mes amis pieds noirs ne m'en voudront pas de ce que j'ai pu écrire dans ce livre.
Effectivement, c'est un combat que vous n'avez jamais cessé de mener. Je me souviens d'avoir organisé à vos côtés de grandes manifestations à Paris au début des années 2000, sous l'égide du Mémorial de l'honneur français que vous aviez créé avec Roger Olyndre, avec Biagi, avec le commandant Guillaume, avec un certain nombre d'élus du Front National, de ce qui était le Front National à l'époque. Et à l'époque, on répliquait Et vous aviez été le fer de lance de la réplique. On avait même reçu, je me souviens, le soutien du général Bijard, qui était sorti pour une fois de sa neutralité sur le sujet. Mais les attaques de l'adversaire avaient été tellement terribles à l'époque que cette réplique donc avait été organisée. Mais c'était à l'époque où il y avait des mouvements politiques, où le Front National en tant que mouvement politique répliquait sur ces choses-là et ne laissait rien passer, notamment avec notre ami Roger Olyndre, qui était en tête de cortège et en tête de manifestation.
Et c'est pour ça que je défends aussi, alors que j'ai eu des désaccords avec Jean-Marie, mais je défends aussi l'honneur du Front National, auquel vous avez participé, vous aussi, absolument, Richard, en absolument tant que président du Cercle National des étudiants de Paris. Donc, parce que moi, au Front National, je n'ai pas vu des nazis. Hein, quand je suis rentré au Front National, sur l'influence très forte de Jean-Pierre Stirbois. Jean-Pierre Stirbois était un camarade de combat. Sa mère s'appelait Lutz Meyer. Elle était juive. Jean-Pierre Stirbois...
C'était au début des années 80, lorsque vous êtes rentré au Front National.
Oui.
Et effectivement, si vous pouvez... C'est très intéressant, parce que ça, vous l'aviez dit quelques fois, mais pas assez. Lorsque vous êtes rentré, on dit souvent, c'était un mélange, etc. La majorité de ceux que vous avez connus au bureau politique, dans les instances dirigeantes, il y avait beaucoup de résistants. Non seulement il n'y avait pas de nazis, mais il y avait beaucoup de résistants.
J'ai connu au Front National, grâce à Jean-Marie Le Pen, Jean-Baptiste Biaggi, un des plus grands héros de la résistance. J'ai connu Michel de Camaret. Yann connaît son frère.
Son neveu et son frère également, oui.
Donc, dans le Vaucluse, j'ai connu Michel de Camaret, dont je parle dans mon livre. C'était un héros de la résistance et du débarquement. J'ai connu là donc, des compagnons de la libération, comme Klosterman, excusez-moi, je suis en train de chercher le nom d'un ami très cher, qui était Albert Chambon, l'ancien ambassadeur Albert Chambon, président des anciens de Buchenwald, hein, donc survivant par miracle, qui a toujours été un fidèle de la GRIF. C'était un homme remarquable. Hein, je pense que son fils Bernard, qui a été un homme d'entreprise tout à fait remarquable, nous écoute en ce moment, peut-être pas, parce que j'ai oublié de lui dire que nous étions au micro ce soir, mais donc je n'ai connu que des grands résistants. Et quelquefois, je me dis, mais enfin, quand sur une chaîne alternative, M. Rochebain, qui est par ailleurs, qui a des qualités par ailleurs, se permet de dire à chaque fois, oui, nous n'oublions pas que parmi les fondateurs du Front National, il y eut des fascistes. Moi, j'ai connu plus de compagnons de la libération que des partisans de la collaboration. Je n'ai pas connu, à vrai dire, je me souviens de la rencontre que Jean-Marie Le Pen m'avait organisée avec le général de Bénouville, qui n'était pas, que je sache, non plus partisan de la collaboration. Donc j'ai connu au Front National, au bureau politique du Front National, donc des héros de la résistance, des héros de la guerre, et donc on trouve leur nom dans mon livre naturellement, mais j'ai trouvé souvent, j'étais un peu amer parce que j'étais pas toujours inconditionnel de Jean-Marie. Nous avions pu nous heurter sur bien des choses, mais en tout cas, je ne me repens pas j'étais totalement en amitié avec Jean-Marie. Donc là, ce que j'entends dire, alors heureusement, il semblerait qu'il y ait aujourd'hui un peu de revirement, parce que quelquefois, je me disais, mais enfin, donc pourquoi il ne réplique pas? Pourquoi sa fille ne réplique pas? Parce que Marine Le Pen, elle a connu aussi Biaggi, Arrighi, etc., etc. Hein, donc c'est quelque chose que je ne m'expliquais pas. Parce que ce n'était pas besoin de chercher un lissage quelconque, alors que le Front National était essentiellement un mouvement de patriotes, et avec les plus grands patriotes dont j'ai cité quelques noms, mais évidemment on en trouvera d'autres dans mon livre.
Bernard, vous avez cité tout à l'heure Jean-Pierre Stirbois. Jean-Pierre Stirbois, c'est quelqu'un que vous avez connu dans un courant de la résistance patriote française qui s'appelle le solidarisme, qui est un courant qui est moins connu aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ou 15 ans, ou 20 ans même, mais qui est fondamental dans l'histoire de la droite nationale, parce que le solidarisme a formé des militants, des chefs, et il a surtout été un antidote contre certaines erreurs, et on voit encore aujourd'hui, notamment sur la question de la Russie et de l'Ukraine, que les militants solidaristes sont vaccinés contre toute forme de soviétisme. Quel est ce courant solidariste? D'où vient-il? Et quelles sont les grandes figures que vous avez connues dans le mouvement solidariste?
Alors, effectivement, vous faites bien de dire cela, parce que je dois beaucoup la formation solidariste que j'ai eue aussi, et notamment quand j'évoquais Jean-Pierre Stirbois, qui était un des principaux animateurs du solidarisme, Jean-Pierre Stirbois, dont je rappelle que sa mère s'appelait Lutschmeyer, c'était une juive ashkénaze, et on est juif par sa mère. Hein. Donc Jean-Pierre Stirbois, secrétaire général du Front National, était tout bonnement juif. Et ça, il ne s'en vantait pas, il n'en avait aucun complexe, il assumait totalement. Là, j'étais intime de Jean-Pierre Stirbois, c'est lui qui m'a persuadé de le suivre au Front National, en me disant tout simplement: Bernard, écoute, Jean-Marie Le Pen est le meilleur d'entre nous. Et d'accord, il peut avoir des défauts, mais en l'occurrence, c'est quand même lui le meilleur. Et je ne me suis jamais repenti d'avoir suivi Jean-Pierre. Le drame a été le décès de Jean-Pierre dans un accident de voiture. Il était rentré la veille de Nouvelle-Calédonie, fatigué, et je savais comment il conduisait. J'avais eu quelquefois assez peur à ses côtés, parce que c'était un imprudent majeur. Et voilà, donc là, j'ai connu au mouvement solidariste les contacts avec les Russes. Moi, je défends la Russie, mais pas avec les poutinistes. Poutine, c'est le successeur, c'est un chétiste, un pur chétiste, c'est un pur tagébiste. Donc là, j'ai été heureux de rencontrer Slavinsky, nombre de Russes qui, eux, n'ont pas été ensuite des poutinistes. Et d'ailleurs, on passait aujourd'hui, chère Yann, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, sur cette admirable librairie où je me rendrai demain sans doute, donc où il y a en vente les livres des grands russes patriotes et nullement poutinistes, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et en quoi le solidarisme est-il un vaccin justement contre le soviétisme? Bon, vous avez expliqué comment vous avez rejeté le communisme très tôt. Qu'est-ce que est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots du solidarisme? De quoi s'agit-il?
C'était une doctrine qui était finalement une doctrine de troisième voie. Ni capitalisme, ni socialisme.
Pardon, d'ailleurs, Maliarakis en faisait partie.
Jean-Gilles Maliarakis, en effet. Et donc, je peux citer beaucoup ensuite, mais là, je dois dire, nous nous réunissions, je vais vous dire, par exemple, nous nous réunissions 10 rue Monsieur le Prince à la maison d'Auguste Comte. Là, nous avions la chance d'être accueillis par l'ambassadeur du Brésil, Sá Carneiro, parce que le solidarisme s'inspirait de la doctrine donc de la troisième voie donc qu'il constituait entre le capitalisme et le communisme. Donc là, je peux pas citer tous les noms, mais si Jean Cône, Gérard Boucher, le lieutenant Kayanakis, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, il était évident que ce n'était pas un groupuscule fasciste. Le mouvement Jeune Révolution s'est transformé en mouvement solidariste français sous l'influence des Russes, des admirables Russes que j'ai connus. C'est pour ça aujourd'hui, ceux qui défendent la Russie, Non, ils ne défendent pas la Russie avec Poutine. Ils défendent le totalitarisme qui s'est modelé aujourd'hui en idéologie eurasiste. Ça n'avait rien à voir. Donc, dans ma bibliothèque, eh bien, Solzhenitsyn, j'ai dans mon petit livre sur l'Ukraine cité les paroles remarquables de Solzhenitsyn. Donc là, c'était une doctrine qui avait empêché, et c'est vrai, il y en a raison de le dire, les solidaristes ne sont pas tombés dans les perversions d'une certaine nouvelle droite, et encore moins les perversions stalinoïdes et tchétistes. Je rappelle pour les auditeurs que la Tchétchia, c'est-à-dire la commission pan-russe de répression des activités anticommunistes, dont cette Tchéka, donc, a été fondée par quelqu'un. Et j'ai mis dans mon livre la photo de Poutine avec Dzerzhinsky. Dzerzhinsky, ça fait frémir. Quand je vois la photo satanique de Dzerzhinsky, qui me fait penser donc au pire des photos des dirigeants nazis. Donc là, eh bien, avec le solidariste, on était vaccinés totalement et contre le nazisme et contre le communisme.
Avec des actions courageuses, des militants solidaristes qui allaient distribuer des tracts sur la place Rouge à Moscou, avec des martyrs. On a souvent parlé ici avec notre ami Emmanuel Peset, qui était aussi un militant solidariste, de Stéphane Zanettaci, qui a été tué à Beyrouth en 1976, mais également d'Alain Escoffier. Et on parle Absolument. Plus, on ne parle plus souvent, plus assez souvent aujourd'hui, de la mémoire d'Alain Escoffier. Est-ce que vous avez connu Alain Escoffier ?
Non, je n'ai pas connu Alain Escoffier, sinon de nom, mais je connaissais bien ensuite Stéphane Zanettaci, parce qu'il m'avait été attribué comme protecteur, garde du corps, en quelque sorte, et j'ai bien connu donc, Zanettaci, qui a été tué donc, à l'assaut à Beyrouth, hein. Je n'ai pas connu Escoffier, mais j'ai connu donc à peu près tous les militants solidaristes qui refusaient également le communisme et le nazisme.
Il faut rappeler que Alain Escoffier donc est un militant solidariste qui pour protester et pour attirer l'attention de l'opinion publique sur les crimes des régimes soviétiques et communistes, sur l'oppression qu'il faisait peser sur le peuple russe et sur les peuples d'Europe centrale, s'était immolé devant le siège de l'Aéroflot sur les Champs-Élysées. Mort abominable, mais il a voulu pousser ce cri de détresse de cette façon-là. C'est absolument tragique.
C'était tragique. Mais je continue à fréquenter les anciens solidaristes, c'est une famille, et par exemple, j'aurai la semaine prochaine chez moi, lors de la présentation de mon livre à mes amis de la région de Toulouse, j'aurai Charles Cassagneau, dont le père a été un admirable cardiologue, mais défenseur de l'Algérie française aussi, qui avait fait 4 ans de prison, et Charles Cassagneau, lui, il est monté en haut du clocher de Saint-Cernin pour donc mettre un drapeau hongrois. Je me souviens de cette nuit, moi je grelottais en bas et je voyais mon ami Charles, complètement fêlé, qui montait par les échelons extérieurs du clocher de Saint-Cernin et il est allé mettre le drapeau hongrois. Lui, il avait le souvenir de la révolte hongroise, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, à ce moment-là, je tremblais de peur. Je me disais, pourvu qu'un échelon ne s'affale pas, mon cher Charles sera la semaine prochaine à la maison pour la présentation de mon livre. Et je l'ai, je crois, évoqué dans ce livre-là. Donc, c'était ça, le solidarisme. Et nous avions un groupe très soudé qui fait que nous avons tenu la moitié de la faculté des lettres en mai 68, la moitié de la faculté des lettres de Toulouse, avec le groupe solidariste fondamental, avec Jean-Pierre Fabre, qui ensuite a fait une carrière dans la gendarmerie, c'est tout à fait autre chose, mais qui est très fidèle à son idéal solidariste. Je pense qu'il faudra qu'un jour, au-delà de ce livre, que j'écrive ce qu'a été le solidarisme. Et parce que nous demeurons, et nous n'avons pas eu de conflit majeur, ni même mineur. Nous étions une famille militante et nous le sommes restés. Nous nous retrouvons quelquefois. Donc, là, les noms ne me reviennent pas forcément ce soir au micro, mais donc je peux citer, je citerai dans cette étude donc les militants solidaristes qui demeurent aujourd'hui fidèles au poste.
Un auditeur qui a l'air de bien connaître la période Algérie française et post-indépendance vous demande si dans votre carrière de jeune militant, enfin dans votre jeune militantisme et ensuite, vous avez eu affaire au service, à la milice gaulliste qu'on appelait le service d'action civique du SAC. Est-ce que vous avez côtoyé d'une façon ou d'une autre le SAC ?
Oui, non, je l'ai côtoyé. Oui, j'aurais préféré ne pas le côtoyer parce que le SAC à Toulouse, c'était Sandinetti, ça n'était pas n'importe qui. C'était un ami de Biagi de la Résistance. Mais donc là, cette admirable famille des Corses, dont Biagi, Aridi, etc. Donc là, j'ai connu le SAC de Sandinetti et je dois dire que, ayant été poursuivi une nuit où nous collions des affiches pour Tixier-Vignancourt, là on en parlera peut-être après, eh bien nous avions à nos trousses les mafieux de Sanguinetti et je m'en suis tiré, parce qu'à l'époque je n'étais pas frileux, aujourd'hui je meurs une minute après, je m'en suis tiré en plongeant dans la Garonne, hein, parce que ben, je ne faisais pas le poids hein, face aux barbouzes professionnelles de Sanguinetti. J'avais pas en effet beaucoup d'attirance pour le service d'action civique qui était le service des barbouzes. Quoi.
Je voudrais juste rappeler que vous écoutez Radio Courtoisie, l'émission de La Réplique dirigée par Bernard Anthony qui aujourd'hui présente tout particulièrement son tout dernier livre qui vient de sortir. Mémoire de Bernard Anthony aux éditions Godefroy de Bouillon. Nous avons ici l'éditeur de ce livre, Richard Haddad.
C'est le 20e livre que vous éditez de moi, cher monsieur Haddad.
Probablement, je ne les compte plus.
Le 20e.
Le 20e, vous les avez comptés, Bernard.
Je suis très heureux.
Yann Bali est là aussi, qui est maintenant le président du Centre Charlier de Chrétienté et Solidarité et de la Griffe. Je ne me trompe
mais oui,
pas.
Mais oui, j'ai
président.
Les flambeaux.
Vous avez passé le flambeau, mais le courant passe toujours. Donc, il n'y a pas de changement d'orientation ni d'objectif. Prudence Stan est là également. Et Bernard Anthony, allez-y.
Un petit mot, parce que M. Bobineau frappe à la porte. Il s'impatiente. Et donc, je laisse la parole à M. Bobineau.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Bernard Anthony, on va passer aux années 80.
D'accord.
Vous avez fondé, alors c'est très riche en événements, parce que vous l'avez dit il y a quelques minutes, vous adhérez, grâce à votre poussée par Jean-Pierre Sirbois au Front National, je ne sais plus l'année exacte, mais je pense que 82, 83, quelque chose comme ça.
82, 83, voilà. Et je suis élu au Parlement européen. Très vite, Jean-Marie Le Pen m'a demandé d'être au bureau politique du Front, influencé par Sirbois, et donc ça a été la suite ensuite. Et
donc vous faites partie des premiers élus européen du Front National 1984.
Absolument.
Mais ce début des années 80 était très riche en événements, puisque vous aviez des activités diverses. Vous avez créé Chrétienté Solidarité. Et puis on va parler un peu, peut-être Prudence vous posera des questions sur le pèlerinage de Chartres, mais commençons par Chrétienté Solidarité. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette organisation
Eh bien, c'est que j'étais catholique dès le départ de mes engagements. Et j'étais solidariste. Et rien de plus cohérent que de créer Chrétienté Solidarité. Chrétienté Solidarité, c'est une émanation catholique solidariste à l'origine.
Oui, là, et vous êtes, vous, je ne sais pas si c'était votre, les premières activités de chrétienté solidarité, est-ce que c'était le Liban ou plutôt l'Asie du Sud-Est?
Non, ça a été le Liban.
Le Liban. Et qu'est-ce qui vous a, pourquoi le Liban? Qu'est-ce qui vous a...
Parce que j'étais passionné par ce qui se passait au Liban. Déjà, notre héros était Béchir Gemayel, sur lequel Don Juan et notre ami Emmanuel Peset ont écrit un livre excellent, mais qu'ils doivent rééditer, je crois. Enfin, je ne sais pas. Donc, le Liban, parce que, évidemment, quand on a un peu de culture politique, on sait combien le Liban, ben, c'était pour moi, ça semble toute une autre France de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'était aussi le Liban, peut-être la revanche de l'abomination de l'Algérie. Parce que là, je vous ai dit, l'Algérie ne me quitte pas. Je ne peux pas oublier les jours. Pourtant, je n'ai jamais mis les pieds en Algérie. D'ailleurs, j'avais fait le vœu de ne pas aller en Algérie. J'ai longé la frontière algérienne en Tunisie, mais donc cette abomination de l'Algérie, de la perte, de la manière dont on a traité les harkis, dont on a traité les musulmans fidèles. Tout ça, on ne va pas le redire ici, mais il faut le rappeler quand même. Il y a des piqûres de rappel à faire. J'ai toujours eu cela dans ma tripe, en quelque sorte. Donc,
alors, vous n'avez pas été en Algérie, mais vous avez été au Liban de multiples fois.
Vous avez une phrase d'ailleurs sur le Liban que vous avez citée à plusieurs reprises. Je ne sais pas, je n'ai pas encore lu les mémoires, mais je ne sais pas si vous le dites. Vous aviez dit, je vous ai entendu à plusieurs reprises, dire que le Liban était un voyage initiatique. Pourquoi avez-vous dit, pourquoi le Liban est-il un voyage initiatique?
Parce que on y rencontrait, d'abord parce que le Liban, eh bien, c'est un pays, c'est pas vous que je vais rencontrer ça, encore moins à Richard Haddad, mais cher Yann, cher Richard, parce que quand je suis allé au Liban pour la première fois, en compagnie d'Olivier d'Ormesson, hein, c'est le voyage initiatique pour moi, en effet, parce que là, alors, nous nous sommes retrouvés, eh bien, on a édité d'ailleurs un petit livre, Itinéraire
excellent livre sur le
Libanais, et j'ai tout de suite eu, comment dirais-je, l'approbation de quelqu'un qui a joué un rôle éminent dans ma vie, et qui me marque aujourd'hui depuis plusieurs années, c'est-à-dire Don Gérard. Don Gérard, le fondateur du monastère Sainte-Madeleine du Barou. Mais je dois dire qu'il tient une place essentielle dans ma vie aussi. Parce que moi, je ne suis pas un saint, encore moins un petit saint, encore moins un grand saint, mais je suis catholique. Et donc là, j'avais eu la chance, après les déboires que j'avais eus avec la police, de rencontrer Don Gérard au monastère de Tournaille. J'ai raconté à Don Gérard ce que je faisais. Et il m'a dit, bon, continue. Aucun seul mot. Continue. Et nous ne nous sommes plus lâchés, puisqu'il a été un des hommes de ma vie, un des hommes essentiels dans ma vie. Quand j'avais besoin de comprendre des choses sur le plan religieux, mais Don Gérard était aussi un admirable esprit politique. Je me souviens ensuite d'avoir emmené Don Gérard au Liban. Ça a été un voyage extraordinaire. Hein, je me souviens, je pourrais citer bien des anecdotes dans la ligne verte, qui était la ligne de séparation entre les chrétiens, globalement, et puis les forces islamo-progressistes.
Progressistes. Ça s'appelait comme ça. Islamo-progressiste.
C'était le gag.
Comme quoi l'islamo-gauchisme n'a rien inventé.
Exactement. Et donc là, je me souviens d'avoir amené Don Gérard dans la ligne verte, où nous étions avec ceux que l'on appelait à l'époque au Liban les jeunes gens, c'est-à-dire les jeunes gens des Tataeb. Et donc... Une anecdote que je n'ai pas écrite dans ce livre, parce qu'on ne peut pas tout écrire, et puis on en a tout plein, c'est que j'étais allé cette année-là, une de mes premières années aussi de fréquentation du Liban, j'étais allé cette année-là, donc avec Don Gérard sur la ligne verte. On entendait des chuchotements en face. En fait, c'était les combattants qui s'épiaient. Don Gérard bénissait les combattants chrétiens. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé ? À l'époque, l'aéroport de Beyrouth ne fonctionnait plus. J'avais l'immense chance qu'un grand ami, qui a joué un grand rôle dans ma vie aussi, ait mis à ma disposition un avion, ce qui me permettait d'atterrir à Chypre. Et donc, ensuite, on passait au Liban par le Sunboat, par bateau. Et donc là, au retour, nous repassions par bateau de Jounieh à Chypre. Et puis à Chypre, il fallait reprendre ce petit avion qu'on nous avait prêté. Et là, en premier, passe au contrôle Don Gérard. Et puis Don Gérard ne ressort pas. Il ne ressort pas. Une heure passe, deux heures passent. Donc les pilotes, évidemment, se demandaient ce qu'il y en était. Il y avait deux pilotes dans ce petit Learjet, etc. Et c'est que, donc, j'avais heureusement mon passeport de député au Parlement européen. Donc là, je suis amené à l'endroit où la police chypriote interroge Don Gérard. Qu'est-ce qui s'était passé ? C'est Don Gérard, dans la ligne verte, avait ramassé des douilles, avait ramassé des douilles dont il avait bourré ses poches. Et là, évidemment, les Chypriotes l'ont pris pour un terroriste. Bon, il a fallu que j'argumente, il a fallu que je passe sur les détails. Il voulait, alors il disait aux policiers chypriotes, mais ce sont des cartouches bénies. Vous imaginez, Richard qui connaît bien le monde grec, hein, oui. Donc vous imaginez ce que ça donnait. Finalement, ils nous ont pris pour des cinglés, mais ils nous ont laissé passer, et donc je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, oui, parce que c'était
Don Gérard et le Liban.
C'était voilà. Don Gérard et le Liban, et pour Don Gérard, il était initiatique que d'aller au Liban. Et je termine juste sur ça, et lorsque son successeur a été élu, donc Louis-Marie, l'actuel père abbé du monastère du Barou, Don Gérard m'a demandé la première des choses, d'amener le père abbé au Liban. Et donc, voilà donc cette continuité.
Vous avez même fait vous avez organisé en 1987, si ma mémoire est bonne, 86, une université d'été de chrétienté et solidarité au Liban. Et le Liban était en guerre à l'époque, mais vous avez emmené les militants faire leur université d'été au Liban en compagnie des militants des forces libanaises qui étaient à l'époque l'armée chrétienne de résistance qui constituait la résistance libanaise.
Et le monastère du Barou n'a pas oublié le Liban, bien au contraire, puisque encore très récemment, ils ont contribué très généreusement à l'appel de Chrétienté Solidarité pour aider les villages chrétiens du Sud.
Alors, Prudence, peut-être quelques questions sur le pèlerinage, parce que le pèlerinage de Chartres tel qu'on le connaît aujourd'hui...
Voilà, dans votre combat pour la chrétienté, en fait, une œuvre majeure, c'est la création. Alors, donc, vous pouvez nous décrire la naissance, en fait, du pèlerinage
Oui, je peux décrire très facilement, parce que ce sont des souvenirs qui sont très, très imprégnés à moi. Ça se passait au Ménil-Saint-Loup. Le Ménil-Saint-Loup, c'est le petit village dans lequel Henri Charlier sculptait. C'était chez nos amis Le Pense, et on avait fait là une sorte d'université avec nos amis. Et là, un soir à la fraîche...
juste, quelle année ? À peu près 83, non ?
C'est ça, en 82.
82.
En 82.
Le premier pèlerinage a lieu en 83.
Le premier pèlerinage, c'est 83, mais évidemment, il avait été concocté dès 1981, ça se dessinait, et c'est en 82 que ça s'est affirmé. D'accord. Et là... Des militants, citons-les, ils sont toujours là. Rémi Fontaine, qui a été journaliste à présent, Max Champoiseau, que sais-je encore, parce que là, ça serait innombrable. Mais donc, il y a Max Champoiseau, Rémi Fontaine, qui viennent me voir et me disent « Bernard, je crois que vous ne seriez pas hostile à l'idée de lancer un grand pèlerinage ». comme celui de Chesterova. Et je dis bien sûr que non. Et donc là, ce soir-là, eh bien, le pèlerinage s'est décidé. Mais j'aurais dit, attendez un peu les enfants, je veux quand même consulter Don Gérard. Voilà, oui, j'assume les influences que j'ai reçues. Donc là, ce soir-là, eh bien, ça y était, le pèlerinage de Chartres se décidait. Et donc ensuite, eh bien, ça a été le développement que l'on sait, avec des anecdotes qui seraient sans fin, parce que dès la première année, on pensait qu'on serait 400-500, et dès la première année, on était autour de 1500, et ça n'a pas arrêté, puisqu'aujourd'hui, c'est...
Parce qu'elle est 15 000 aujourd'hui.
Avec une esthétique remarquable, des bannières qui ont donné l'identité du mouvement du pèlerinage.
Avec tout ce que le pèlerinage a dû à Jacques Le Morvan, qui avait été de ce trio des frères Le Morvan, qui ont joué un si grand rôle dans notre famille, dans le projet. Donc là, le pèlerinage de Chartres s'est précisé au fil des années, mais donc là, je crois que nous n'avons pas perdu notre temps non plus, mais c'est là ce que l'on doit, notamment aux frères Le Morvan, Jacques qui nous a quittés, comme son frère Pierre, ben c'était tout bonnement un artiste. Et c'est ce qui fait que le talent de Jacques Le Morvan s'est affirmé avec nos bannières, nos banderoles. C'était aussi un admirable compositeur d'articles. Enfin, on a trouvé là l'héritage des Charliers. Alors, un seul mot. Qui étaient les Charliers, c'était les frères Henri et André Charlier, qui étaient d'une famille qui n'était pas catholique à l'origine, c'était même une famille de francs-maçons. Et puis là, un jour, c'est Madiran, sur lequel j'ai évidemment écrit dans ce livre Mémoire, c'est Madiran qui me dit, mais Bernard, est-ce que vous savez que les frères Charlier étaient à l'origine, n'étaient pas des catholiques. C'est un jour, en passant le long de la Seine, que Henri Charlier s'est extasié devant la beauté de Notre-Dame et a dit, mais c'est pas possible, on veut faire passer pour barbare une époque qui était une époque de grande civilisation.
Et j'ai envie de dire, juste pour rebondir un peu sur la création du pèlerinage de Chartres, il m'arrive souvent de parler avec des amis américains. Les Américains sont très admiratifs, ils envoient toujours plusieurs chapitres, et je leur dis, mais vous savez comment c'est né? C'est né en France. Je suis toujours très impressionné par le fait que beaucoup de combats dont nous récoltons aujourd'hui les fruits sont quand même passés par le Centre Charlier, ou par des institutions françaises, le Centre Charlier qui voulait le redressement intellectuel et moral de la France, qui s'appuyait sur cet héritage que vous évoquez, Bernard Anthony, d'Henri et André Charlier, a eu un rôle énorme. Je me souviens, moi j'étais étudiante au début des années 1980, il y avait les journées d'amitié française qui rassemblaient un monde énorme, il y avait... la défense de la liturgie traditionnelle. Il y avait un travail intellectuel évident auquel beaucoup ont participé. Bon, il y a eu la Fondation Présent, il y avait Itinéraire.
La Fondation de la Griffe.
Toutes ces institutions. Quand on en parle aujourd'hui à des étrangers, on se dit, mais tout est parti d'une même souche, finalement. Je ne sais pas si c'est l'impression que vous avez, mais vous auriez le droit de l'avoir.
Bah, je l'ai un peu, mais Yann...
Juste un auditeur demande une précision. Il nous dit que Dzerzhinsky est mort 25 ans avant la naissance de Poutine. Comment peuvent-ils être sur la même photo? Je crois que Bernard, vous vouliez dire que Vladimir Poutine a été pris en photo inaugurant une statue de Dzerzhinsky au siège de la Loubianka à Moscou.
C'est un moment... La photo à laquelle je fais allusion, c'est la photo de Dzerzhinsky, l'homme que vénère Poutine avec Staline. Elle est dans mon livre, on la trouve, cette photo. Et là, donc, je n'ai pas autre chose à ajouter. C'est l'anecdote qu'un jour, alors qu'il n'est pas encore connu tellement, il a accédé au plus haut grade du pouvoir, Poutine convoque à la Loubianka tous les anciens de la Tchéka. Ça, c'est documenté, mémorisé, et là, il leur dit, y a-t-il parmi vous ici quelqu'un qui ne soit pas tchétiste ? Et tous de jurer leur allégeance à la Tchéka, qui s'est prolongée en NKVD, en GPU et en FSB, en KGB et en FSB. Donc là, on connaît parfaitement le monstre totalitaire, donc, qui n'est pas tellement philosophique, idéologique, mais c'est le monstre totalitaire, donc poutinien, qui permet de comprendre ce qui régit en quelque sorte la Russie aujourd'hui. Et je prends toujours soin de dire attention, nous ne sommes pas anti-russes, nous sommes contre le totalitarisme qui est né, la monstruosité totalitaire qui s'est reformée après donc, la chute du communisme.
Et là, c'est, on peut enchaîner tout de suite sur une grande initiative dont vous avez été à l'origine. Il y a eu deux procès du communisme. Je crois qu'il y en a eu un en Lituanie et un autre en France en novembre 1997.
Oui, là, je suis quelquefois affligé, attristé. Quand j'entends dire des gens aussi bien, aussi remarquables que Laure Mandeville, qui est une excellente journaliste du Figaro. Il n'y a pas que de bons journalistes au Figaro, mais Laure Mandeville, oui. Ou Isabelle Lasserre. Dire « c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de procès du communisme ». Pardon, hein, c'est nous, avec les faibles moyens que nous avions, nous avons fait un procès du communisme à la mutualité. Ça a duré toute une journée avec des milliers quand même de visiteurs. Donc ce procès du communisme à propos de l'abomination de Georges Boudarel, le traître tortionnaire du camp de 113. J'ai Richard.
Oui, mais pour défendre Laure Mandeville, c'est que ce qu'elle voulait dire, ce que elle et d'autres veulent dire, c'est que eux font allusion à un procès où ceux qui sont condamnés, votre procès à la mutualité ne pouvait pas faire parce que c'est pas le pouvoir judiciaire, c'est exactement, c'est la copie de Nuremberg, c'est-à-dire punir les criminels du communisme et les mettre en prison, vous voyez, ce que ne pouvait pas faire Bernard Anthony, évidemment. Donc c'était un procès symbolique et politique que vous aviez fait.
Et de recherche de la vérité.
Et de recherche de la vérité. Oui. En revanche, il manquait une reprise de ce procès de manière plus punitive, enfin un procès punitif.
Alors,
c'est ça qui a manqué.
Ça
parce qu'ils sont restés en liberté finalement. Mmh. Boudarel, vous savez bien, vous l'avez condamné politiquement, vous l'avez sorti de sa cachette.
Nous l'avons condamné à l'indignité nationale.
Absolument.
Prudence temps.
Mais il méritait la prison tout de même.
Il méritait la perpète.
Absolument. Hein, oui.
Parce que c'était un homme abominable. Mais il se trouve aussi que j'ai eu la chance de rencontrer à Castres un des détenus de Boudarel, le commandant Ivan Tomasi, président de l'amicale des anciens du 8e RPIMA, qui était un homme extraordinaire. On le trouvera en photo dans mon livre. Je suis avec lui à l'occasion d'une réunion à Castres. Prudence Tan a connu Ivan Tomasi. Et donc, c'est à propos de Boudarel, tout de même que nous avons fait ce procès des crimes du communisme. Il y aurait beaucoup de choses à raconter, mais notamment, on peut dire que nous avons un tout petit peu influencé. Pourquoi ? Parce que lorsque, avec Alain Sanders, nous sommes passés de Moscou en Lituanie, qui était encore à Vilnius, plus ou moins occupée par l'armée rouge qui avait fait sa répression quelque temps avant, il y avait eu 13 assassinat sous les chenilles des chars soviétiques. Lorsque nous sommes donc passés à Vilnius, il y avait déjà le président Landsbergis qui avait pu s'installer dans son quartier général. Et là, le président Landbergis, lui, nous a dit dans cette rencontre, moi je ferai un procès du communisme. Et il y a eu procès du communisme, mais à la seule échelle de la Lituanie. Mais c'était un procès déjà inspirateur quand même.
Ce qui me marque, en fait, c'est la constance de votre combat dans l'anticommunisme. Là, par exemple, dans la foulée, on a noté aussi, en 91, le colloque pour le bilan du communisme.
Oui.
Ce qui n'a jamais été fait. Et vous êtes quasiment l'un des seuls, à ma connaissance.
C'est dommage, mais c'est mieux que j'ai été... Non, seul, non, parce qu'avec tous mes camarades militants, donc je ne veux pas qu'on puisse croire que c'était le seul fait de ma personne. Non. Je n'aurais rien fait s'il n'y avait pas eu toute l'équipe extraordinaire du Centre Charlier.
Alors, on peut passer peut-être à une période ultérieure. Les années, alors je ne sais pas si on peut sauter les années 90, Prudence, ou il y a autre chose.
Je pense qu'il faudrait quand même dire quelques mots de la Griffe, parce que la Griffe est une association qui n'a jamais perdu de son actualité et qui est aujourd'hui
impliquée. On va rester dans les années, à la fin des années 80, Bernard, si je me trompe. Vous avez cette idée de... Vous aviez été critiqué d'ailleurs à l'époque, lorsque vous avez fondé la Griffe.
Je ne raconterai pas tout.
Voilà. Alors racontez-nous juste comment vous avez eu l'idée, sans dire les noms de ceux qui ont critiqué, mais pourquoi on vous a critiqué.
Parce que, après, c'est pas grave. Donc, j'avais eu cette idée. L'anecdote, c'est qu'un jour, j'ai piqué, pas une crise, mais une indignation, un moment d'indignation. Lorsque j'avais lu. Qu'une bonne mère de famille de Montpellier avait été poursuivie par le MRAP pour avoir publié une petite annonce « Cherche locataire chrétien et français ». Je m'étais dit « Mais ça, c'est pas possible. Et il nous faut réagir. » Et j'ai voulu créer l'anti-MRAP, j'ai voulu créer l'anti-LICRA, et nous y sommes arrivés. À ce moment-là, donc l'idée de la Griffe a jailli. Je l'ai exposée à mes amis avocats et je dois dire la vérité aussi, pour la vérité de l'histoire, que ce n'est pas moi qui ai trouvé l'acronyme à Griffe, mais c'est Maître Le Driel, qui vit toujours très âgé, donc extraordinairement âgé, qui au bout d'un moment... de ce qu'on appelle le brainstorming aujourd'hui dans les entreprises, un moment d'agite cerveau, j'avais dit, écoutez, alors on a procédé, on a trouvé des mots qu'il fallait associer. Et là, on a fini. C'est Le Driel qui a dit, il faut quelque chose qui symbolise la Griffe, quelque chose d'offensif. Et là, donc, on a terminé la soirée. Ça y était, alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. Donc, Jeanne Smith est vice-présidente aujourd'hui avec Cécile Montmirail, dont Yann Bali est président, parce que moi, au passage, à l'aube de ma 82e année, j'ai pensé que je n'abandonnerai pas le combat, les auditeurs s'en aperçoivent, mais qu'il était nécessaire que je passe la main à quelqu'un. Et dans la Griffe, qui avait eu d'admirables avocats, mais aujourd'hui, Georges-Paul Wadner nous a quittés. Il a été, d'ailleurs, je l'évoque, lui, parce que c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup aussi, parce que je n'ai jamais perdu un procès avec Georges-Paul Wadner.
Parce que oui, la Griffe, rappelons-le, a remporté beaucoup de procès. Parce que c'est ça, son objet principal, c'est de poursuivre ceux...
C'est l'objet principal.
Voilà, ceux qui insultent les chrétiens, ceux qui les discriminent, ceux que... Bon,
utilisant les lois antiracistes qui étaient faites
pour... Mais c'est pour ça que vous aviez été... Oui. Merci Jeanne, parce que c'est pour ça que vous aviez été critiqué, parce que vous avez essayé... Finalement, la stratégie de la Griffe, c'est d'utiliser les lois en vigueur pour les tourner contre ceux qui les ont faites.
Je dois dire que j'ai été influencé là par la stratégie judo. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas très fort, je ne suis pas un colosse. Hein. Et j'étais au lycée de Tarbes avec des futurs internationaux de rugby, Mir, Carrère, Alsarin, devenus mes amis, mais qui étaient de sales brutes. Et quand les plats de frites, parce qu'on aimait beaucoup les frites dans les réfectoires comme ça, arrivaient, c'était comme au rugby. Ils se jetaient sur les frites, et moi, tant bien que mal, j'essayais d'en récupérer une ou deux. Alors là, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je leur casse la gueule à ces salopards, et je me suis mis à faire du judo intensément. De ceinture en ceinture, je suis pas arrivé à la ceinture noire. Si, j'ai la ceinture noire technique, mais j'ai pas eu les points pour la partie combat. Mais donc, j'étais très, très, très passionné de judo aussi, et donc là, je m'étais dit, il faut que on puisse donc trouver un moyen d'échapper à ces brutes. Et j'ai appliqué ça en politique. La griffe est une forme de judo, c'est-à-dire retourner l'adversaire, l'omrap, la litra, etc., et retourner une loi soi-disant antiraciste et qui n'était pas en réalité, en une loi, en l'utilisant d'une manière réellement antiraciste, comme donc jamais.
Et vous aviez été critiqué parce qu'on vous a dit vous utilisez des lois rejetons, etc.
Mais j'ai pardonné et je ne citerai pas parce qu'ils avaient bien des qualités ceux qui m'ont critiqué parce que c'était injuste, mais ils l'ont reconnu ensuite.
Et les frites, vous les aviez fini par les conquérir ?
Ah, les frites, oui, parce que j'étais opiniâtre et je suis devenu un grand ami de Mir, de Carrère, d'Alsarin, qui n'étaient pas des rugbymen nuls, puisqu'ils faisaient partie de l'équipe de France. Oh, j'ai toujours été soutenu par un personnage incroyable, l'abbé Pistre. L'abbé Pistre que l'on voyait lors des matchs, des tournois des Cinq Nations. Il était curé de Noyac, un petit village tout près de Castres. Je le connaissais, il n'avait pas de voiture, mais il faisait du stop à la sortie de Castres. Les voitures se bousculaient pour pouvoir le prendre. C'était un homme admirable. Quand j'ai créé le comité de boycott international des Jeux Olympiques à Moscou, le premier qui m'a téléphoné, c'était l'abbé Pistre. Il roulait les airs. Il m'a dit « Petit, tu fais du bon travail. » Et donc, l'abbé Pistre, m'avait soutenu. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu des centaines d'adhésions. Hein. Il y avait de grands sportifs, etc. Enfin, donc, en quelque sorte, c'est ce que je peux évoquer sur cette question-là. Quoi.
Alors, pardon.
Oui, sur le registre des anecdotes, vous avez rencontré Brigitte Bardot.
oui, bien sûr, elle était adhérente de la griffe. Hein. Elle était adhérente de la griffe. Elle était gentille comme tout, elle était charmante. Je suis arrivé un jour chez elle à la Madrague, à côté de Saint-Tropez. Hein. Donc, elle était là, elle m'a accueilli, elle m'a embrassé comme du bon pain. Et elle était là avec son compagnon, Bernard Dormal. Elle avait préparé le déjeuner. Et là, donc, elle me dit, viens, on va parler à côté un peu. J'étais là avec ma vieille amie qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, Marie-Christine Boutonnet. Donc là, je rentre dans la salle de séjour avec Brigitte. Et qu'est-ce que je vois sous sa table ? Une vipère. Bon, il se trouve que aujourd'hui, j'aurais très peur. Mais j'ai été aussi chasseur de vipères pour l'Institut Pasteur. Parce que ma maison familiale, la Bazette, au bord de la Dour, était pourrie de serpents. Donc là, j'ai dit à Brigitte, une vipère. Alors là, elle a hurlé. Elle défendait les animaux, mais pas tous, quoi. Elle a hurlé. Moi, j'ai attrapé un balai. Et avec un balai, j'ai réglé le sort de la vipère. Voilà ma seule anecdote avec Brigitte Bardot, en dehors du fait qu'ensuite, elle s'intéressait au combat de la griffe. Et voilà.
Alors la griffe, pour conclure, c'était pas seulement des procès à remporter, mais vous aviez finalement, avec la griffe, a réussi à faire peur aux adversaires, parce que qui ont parce que pour une fois, ils étaient convoqués devant un tribunal, ils n'avaient pas l'habitude, ils n'avaient pas l'habitude de cela. Et finalement, qu'ils soient relaxés ou pas, le fait d'être convoqués devant un tribunal les inquiétait.
Absolument.
Et voilà, donc même quand la griffe ne remporte pas forcément un procès, elle fait trembler quand même les adversaires.
Et comme disait Georges-Paul Wagner, il ne suffit pas d'avoir raison, il faut avoir 100 fois ou 1000 fois raison quand on est dans la peau de la griffe fondée par Bernard Antony.
Donc ça fait quand même, c'est une affaire, la griffe, de plus de 35 ans. Et donc, elle a une certaine légitimité, cette organisation.
Une légitimité totale,
totale, qui a fait, qui défend la bonne cause et qui devant c'est une organisation connue par les tribunaux.
Et agréée, c'est-à-dire qu'elle peut, elle peut engager des poursuites.
Agréée, il faut avoir un minimum de 5 ans, et si je me souviens bien, pour 5 ans de combat par rapport à l'objet social, pour pouvoir être partie civile dans ces affaires.
Alors aujourd'hui, avec nos 40 ans d'existence, inutile de dire que les associations d'en face qui veulent contester notre légitimité ne rencontrent aucun écho, parce que ce n'est pas la peine, on a 40 ans de légitimité. Alors, Dieu merci, alors, quand Georges-Paul Wagner est mort, et d'autres encore, je me suis dit, mais par qui on va le remplacer? Eh bien, là, a surgi. Alors, hier, elle a fait un excellent article dans le Figaro, je parle de Solange Doumic.
Oui.
À l'époque, j'étais en relation avec Solange Doumic, et j'ai demandé à Solange de s'occuper de la griffe. Elle m'a dit, Bernard, non, je vais avoir un bébé, je suis dans l'incapacité aujourd'hui d'assurer donc la continuité de la griffe, mais je vais vous conseiller quelqu'un. Il est un peu original. C'était une litote. Un peu original. Il s'appelle Jérôme Triomphe. Dans la foulée, je rencontrais Jérôme Triomphe, et nous ne nous sommes plus quittés. Salut Jérôme, puisqu'il nous écoute en ce moment.
Alors, peut-être nous arrivons à la fin de cette émission.
Il reste une dizaine de minutes.
Oui. Vous avez, à partir des années 2000, vous avez écrit plusieurs livres. On en a parlé au début de cette émission, en dehors de vos mémoires. Mais vous vous êtes spécialisé dans la vulgarisation de l'islam. Je dis bien vulgarisation pour que ça soit, parce que c'est un sujet qui n'est pas simple pour nous, pour les Français. Et vous avez simplifié le sujet pour le faire comprendre. Vous avez travaillé sur ce sujet. Vous avez vos livres, vous le savez, et on le sait nous, mais tout le monde ne le sait pas, ont inspiré beaucoup d'hommes politiques. On ne citera pas de nom, qui se sont appuyés sur vos livres pour en parler, parce que malheureusement, peu d'hommes politiques français connaissent l'islam. Vous l'avez étudié et vous avez essayé de le vulgariser pour que une grande partie des Français comprennent de quoi il s'agit. Alors comment vous est venue l'idée? Et qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne saviez pas avant?
Oui, il y a bien des choses que je ne sais pas encore.
Oui, bien sûr, mais quand même.
Mais donc, parce que je savais bien que pour ce qui était du communisme, eh bien, je crois le connaître.
Pardon, ce sont vos deux grands combats, finalement. Vous les compariez, hein, l'islam et le communisme.
Bien sûr, hein, parce que c'est Jules Mondreau, ce grand intellectuel que j'ai côtoyé, dont je parle dans mon livre aussi, qui disait l'islam et le communisme du XXe siècle. Bon, donc là, du XXIe siècle, pardon. Donc là, cette idée que j'ai eue, c'est qu'il fallait affronter l'islam comme nous affrontions le communisme. Et là, donc, qu'il fallait donc faire passer la réalité de l'islam à travers des livres simples,
accessibles.
Donc ça a été ce que vous avez édité de moi en premier, l'islam sans complaisance. Et là, je dois dire, pas de réaction, je n'ai pas eu de procès, je n'ai pas eu d'intellectuel me sommant de rectifier. La vérité exige aussi que je dise que j'étais conseillé par de grands connaisseurs de l'islam, et notamment mes amis Urvois, Marie-Thérèse et Dominique Urvois, qui sont l'un et l'autre des sommités pour ce qui est de l'islam, puisque l'un et l'autre parlent l'arabe comme le français. Donc, j'ai été très conseillé.
Ils sont professeurs d'université.
Ils sont professeurs à l'université du Mirail à Toulouse. À l'Institut catholique à Toulouse. Enfin, je crois que j'ai été bordé. J'ai fait vérifier tous mes écrits. De même que quand j'ai édité mon islam, l'histoire des juifs, chez vous aussi, d'Abraham à nos jours. Eh bien là, je n'ai pas eu l'ombre d'une réfutation, vous le savez bien Richard, bien éditeur, vous l'auriez su. Eh bien, j'ai pas eu l'ombre d'une réfutation. Un jour, d'ailleurs, une anecdote, il ne m'en voudra pas de la citer ici du tout, j'appelle Gilles William Goldnadel. Et il me dit, Bernard, vous savez où je suis? Je lui dis, comment vous voulez que je sache où vous êtes? Eh bien, il me dit, je suis sur la plage à Tel Aviv et je suis en train de lire votre bouquin, Histoire des Juifs d'Abraham à nos jours. Je lui dis, eh bien, Gilles William, ça vous fera du bien, au moins vous allez apprendre un peu de votre religion. Bon, c'était un ami très fin, très cher. Donc là, j'ai aussi bien sur l'islam que sur la question juive, je crois avoir essayé de faire du travail honnête. Voilà pourquoi, à ce jour, après quand même 40-50 ans de combat, je n'ai jamais eu donc une tentative de me déstabiliser en intentant un procès pour telle ou telle affirmation dans mes livres. Non, rien.
C'est vrai. Je peux le confirmer, puisque je suis votre éditeur, mais vous n'avez pas eu de procès, vous avez eu des menaces de mort de certains islamistes.
Ah ben oui, c'est ça, oui. Et d'ailleurs, il faut que j'en reparle à Jérôme Triomphe, on a dîné hier au soir, je voulais lui en parler, mais le dîner était tellement agréable.
Des menaces sérieuses, hein, pas des menaces comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
Je les présenterai demain à ma causerie. C'est la menace de mort, avec la description des tortures qu'il m'infligerait, par Fouad Ali Salé, l'auteur de l'attentat de la rue de Rennes.
Oui, ça, c'est pas n'importe qui.
Ça, c'est du sérieux. Et donc, de temps à autre, je m'inquiète, parce que c'est peut-être pas très chrétien, je dirais, mais j'ai pas un héroïsme tel que j'accepterais les tortures qu'il me promettait. Donc, parce que Fouad Ali Salé, je ne sais pas encore, nous m'a pendant des années écouté de sa prison de Bois d'Arcy.
Oui.
Et donc là, il a jugé qu'il était temps de me faire disparaître. Et il m'a donc envoyé cette lettre, très bien calligraphiée d'ailleurs, avec le dessin de mon tombeau. Et je montrerai ça demain à ceux des auditeurs qui veulent bien être à notre réunion.
Ce personnage est intéressant parce que il est l'auteur de l'attentat de la rue de Rennes, commandité par l'Iran, il faut le rappeler. Parce par l'Iran, il faut le rappeler aujourd'hui.
Absolument.
Et puis, ce personnage est tunisien d'origine, et il s'était converti au chiisme, parce qu'en tant que Tunisien, il était musulman sunnite, par admiration pour l'Iran, qui serait pour lui le meilleur défenseur de l'islam radical, etc.
Absolument.
Donc vous voyez comme quoi tout ça revient d'actualité. On a oublié un peu, donc c'est peut-être bien parfois de rappeler s'était passé à l'époque.
Vous faites bien.
Alors je dois rappeler aussi, puisqu'il nous reste à peine 3 minutes, donc aux auditeurs, que vous dédicacez votre livre demain au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, à Paris 5e, suite à une conférence que vous donnerez à partir de 19h. Et à la fin de cette conférence, vous dédicacerez votre livre et il y aura bien sûr un buffet d'amitié. Donc 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e.
Et je sais déjà de la participation d'invités éminents et même de très chers amis iraniens qui, eux, ne sont pas du genre ayatollah.
J'imagine.
Puisque j'évoquerai sans doute demain mon amitié avec Houchan Naavandi, cet ancien qui est mort aujourd'hui, universitaire admirable de culture française. Ancien ministre du Shah. Donc, on continue le combat.
Jeanne, quelque chose à dire encore? Il nous reste 3 minutes.
Il nous reste 3 minutes. Eh bien, pour saluer finalement une histoire où politique et christianisme et catholicisme se sont côtoyés sans que vous soyez jamais un clérical, finalement.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous avez montré comment, en tant que laïc, on peut avoir une très profonde influence, y compris sur des destinées religieuses. Je crois que vous avez été, je sais que vous avez été très proche de Don Gérard. Je pense qu'il vous a beaucoup apporté. Je pense que la réciproque a été vraie aussi.
Je ne sais pas si la réciproque a été vraie, mais j'assume le fait qu'il m'a influencé. Et je n'ai jamais essayé de dire « je suis un homme qu'on n'influence pas ». Je suis éminemment influençable, mais je choisis mes influences.
Bernard, il y a aussi un souvenir personnel. Je me rappelle lorsque, mais je ne me rappelle pas l'année, lorsque il a été question d'allonger les délais de l'avortement, vous avez été, je crois, le seul à cette époque-là à organiser une manifestation.
C'est vrai.
Mais vraiment le seul. Moi, j'avais appelé des amis de mon temps d'étudiante qui avaient des postes médiatiques nettement plus importants que les miens, en les suppliant de parler de cette manif. Il ne s'était rien passé. Et vous étiez là. Je me rappelle que nous étions à l'angle, je pense, Place des Invalides, pour dénoncer cette nouvelle avancée de la culture de mort. Au bout de toutes ces années, est-ce que votre travail vous paraît utile et avez-vous de l'espérance?
C'est aux autres d'en juger.
Oui, mais avez-vous une espérance?
Ah ben oui, bien sûr. Si j'étais sans espérance, je ne serais pas à ce micro.
Et ainsi, il faut continuer de vous écouter, Bernard.
Merci, John. Voilà. Je pourrais décrire des anecdotes avec vous aussi, mais donc vous êtes une admirable vice-présidente, notamment de Chrétienté et Solidarité. Vous avez été une journaliste admirable du quotidien présent auquel j'ai contribué un tout petit peu aussi.
Vous étiez parmi les fondateurs.
Et voilà donc. Mais merci Richard, je crois qu'on est à la fin. Merci Stéphane et chers auditeurs, retrouvailles dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre aujourd'hui le Libre Journal de la Résistance Française, dirigé par Bernard Anthony, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 15 avril 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.